Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donatien Alphonse François de Sade est né en 1740 dans une famille de la noblesse française et a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans, ce qui n'est pas une mince performance quand on connaît les conditions de cette vie, dont 27 années furent passées derrière des murs de prison ou d'asile d'aliénés. Il était un homme comme les autres, davantage qu'on ne l'a dit, un modéré, y compris en politique. C'est en tout cas ainsi que le présente Stéphanie Genant dans sa biographie qui vient de paraître dans la collection Folio et dont elle est venue nous parler lundi. Et puis mardi, nous avons évoqué l'inscription de Sade dans le siècle des Lumières, sa manière de concevoir l'amour, ainsi que certaines de ses œuvres. C'est l'historien Michel Delon qui est venu pour cela. Et enfin hier, c'est de Sade et les femmes dont il a été question avec Florence Lautry et Cécile Guilbert. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer la lecture que les intellectuels ont fait de Sade au XXe siècle, nous sommes avec Éric Marty, romancier, essayiste, universitaire, éditeur des œuvres complètes de Roland Barthes aux éditions du Seuil. Il a également posé, dans un livre paru en 2011, la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux? C'était dans un livre de la collection Fiction et compagnie des éditions du Seuil. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Il me semble que l'heure soit venue pour ces idées qui ont mûri dans l'atmosphère infâme des enfers des bibliothèques, et cet homme qui parut ne compter pour rien durant le 19e pourrait bien dominer le 20e siècle. Le marquis de Sade, cet esprit le plus libre qui ait encore existé, avait aussi sur la femme des idées particulières et la voulait aussi libre que l'homme. Justine, c'est l'ancienne femme, asservie, misérable et moins qu'humaine. Juliette, au contraire, représente la femme nouvelle qu'il entrevoyait, un être dont on n'a pas encore idée, qui aurait des ailes et qui renouvellerait l'univers.
Extrait de l'œuvre du marquis de Sade d'Apollinaire, lu ici par Zoé Varier. Apollinaire qui a été l'un des premiers au XXe siècle à redécouvrir cet auteur. Bonjour Éric Marty.
Bonjour.
Vous vous êtes donc intéressé à la lecture qu'on a fait de Sade au XXe siècle. Vous avez donc enjambé le XIXe précisément parce que c'est un siècle durant lequel on n'a pas tellement lu Sade, on ne s'est pas tellement intéressé à lui.
Alors en fait, on l'a lu mais en cachette, si j'ose dire. Alors, en fait, tout le monde l'a lu à ce moment-là, aussi bien Chateaubriand, Stendhal, Balzac. Il y a, on pourrait dire Balzac au travers du prisme de Sade, tant il y a une influence, par exemple, l'histoire des 13, qui comprend Ferragus, les yeux de Langeais, ou la fille aux yeux d'or, qui suppose une sorte de complot d'aristocrates, d'élite, et qui sont gouvernés par leur seule jouissance, est une réplique totale de la situation des amis du crime de Sade. Enfin, alors bon, il y a Flaubert, l'a lu abondamment, les Goncourt l'ont lu.
On le lit donc sous le manteau.
On le lit sous le manteau parce que d'abord on n'a pas à sa disposition l'œuvre complète de Sade. On a essentiellement des publications, soit des originales, soit des publication clandestine, donc c'est pas non plus très facile. Baudelaire, le grand lecteur de Sade, hein, Sade supérieur à Le Sand, enfin, contre le progressisme, Sade apparaît contre le progressisme de gauche, contre l'humanisme de gauche de Georges Sand, Sade apparaît le modèle, le vecteur justement d'une vraie subversion très baudelairienne, et Baudelaire est complètement sadien, donc il y a une lecture, il y a une imprégation de Sade, mais je crois qu'on n'ose pas précisément complètement le prendre au sérieux, c'est-à-dire qu'il y a quand même la dimension extravagante, la dimension fantasmagorique de Sade, interdit en réalité d'afficher. Et puis, il y a un côté, les gens du 19e sont quand même aussi des petits bourgeois. Flaubert lit Sade, il se repaît de Sade, mais il le lit avec en riant, avec une sorte de rire un peu, ce rire enfantin de Flaubert, un peu adolescent, qui fait qu'il n'assume pas complètement sa fascination.
C'est plus le sadisme oui, qui intéresse que Sade lui-même.
C'est ça. C'est le sadisme qui intéresse. C'est le personnage de Sade peut intéresser effectivement, mais on en réalité, il y a vraiment une absence d'audace peut-être du 19e siècle à prendre Sade au sérieux. Donc on le lit dans une sorte de fascination. On le lit en cachette, encore une fois, on le lit dans le côté enfer de la bibliothèque. C'est ça, c'est l'enfer. Et alors que le XXe siècle, lui, le placera dans une lecture beaucoup plus commune. Et je dirais ordinaire et sans cette dimension de profanation, d'excitation, de côté religieux au fond que les écrivains du 19e actuellement je travaille sur Chateaubriand, je suis assez aussi étonné par une présence souterraine de ça dans la manière dont Chateaubriand, par exemple, traite de la Révolution française avec ses figures de décapitation, ses caricatures monstrueuses des révolutionnaires. Il est évident qu'il a lu ça, et c'est attesté par tous les spécialistes de Chateaubriand d'ailleurs.
Alors on va parler du XXe siècle, mais je voudrais remonter encore un petit peu plus haut et vous poser la question que je posais à Michel Delon mardi dernier sur le XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui fait que c'est le XVIIIe siècle qui permet à Sade d'émerger, à cette littérature-là d'être produite?
Alors Sade profite en fait d'un arrière-fond du libertinage qui est quand même fascinant, qui est quand même très développé au XIIIe siècle la mort de Louis XIV, enfin avec tout le commencement de la Régence, Louis XV, il y a un développement d'une écriture libertine qui est partout.
Et qu'on peut pas expliquer comme ça facilement. Enfin, est-ce qu'on trouve
des... moi, je suis pas du tout historien de la littérature, mais tout bêtement, je vois là-dedans une sorte de relâchement après la fin du règne de Louis XIV, qui est quand même soumis à beaucoup de censure et de religiosité qui revient sur le devant de la scène.
Un retour de balancier.
Oui, et puis surtout l'espèce de liberté tout d'un coup que crée la disparition du monarque absolu. Il y a une sorte de moment de flottement du pouvoir avec la régence qui quand même ouvre à beaucoup de possibilités. Et puis il y a la personnalité de Louis XV aussi qui va autoriser tout cela. Je crois que ça bénéficie de ça et bénéficie surtout, je crois, et ça qui me semble vraiment le plus important, d'un moment de un moment où l'aristocratie est sur le point de disparaître comme classe. C'est-à-dire, en tout cas, où l'aristocratie n'a plus, finalement, pour soutenir sa position, de légitimité idéologique sérieuse. Et donc, dans cette espèce d'interrogation et de vertige qui constitue son pouvoir, au fond, elle est amenée à questionner son propre pouvoir et à tirer peut-être les conséquences, au fond, de cette domination qui est une domination reposant sur l'arbitraire et sur la jouissance. Et au fond, c'est ce que Klossowski va... Alors, j'arrive dans le XXe siècle déjà.
Allons-y justement. Ouais,
non, mais c'est comme ça que Klossowski lit les choses. Et je crois que c'est une lecture très fantasmatique, mais intéressante. L'aristocrate jusque-là a justifié sa domination par la loi naturelle, par Dieu, par toutes sortes d'alibis idéologiques qu'il a constitués, qui sont le fond de commerce au fond de la domination féodale. Et puis, tout cela disparaît. Et à ce moment-là, l'aristocrate voit que c'est sa jouissance qui est réellement en jeu, une jouissance absolue et arbitraire. Et, en quelque sorte, la Révolution française, c'est le moment où selon Klossowski, une forme d'alliance entre l'aristocratie et le peuple, où tout d'un coup, l'aristocratie dit au peuple, voilà, mon pouvoir, ça n'est que ça, ce n'est qu'à ma jouissance, eh bien, participez-y. Et la Révolution française commence par le fait que l'aristocratie a décidé de ne plus, au fond, fonder son pouvoir sur, justement, une domination qui serait une domination morale, mais au contraire, une domination immorale. Et cette immoralité, ce dévoilement de l'immoralité même de la domination aristocratique qui, au fond, provoque la Révolution française et permet à Sade d'exister.
God is the slave of our 30,000 wheels. She sings all alone at the place where the time stands still. Death, death and life, I could hear it in our minds. We forgot to call, and the silence carried all.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors pourquoi le XXe siècle a-t-il pris ça de sérieux, Éric Marty? C'est ce dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous poser cette question au fond, et pourquoi avez-vous pris SAD pour finalement revisiter tout un pan de la pensée du XXe siècle? Vous auriez pu peut-être choisir un autre auteur, parce qu'au fond vous vous intéressez autant à SAD qu'aux auteurs qui parlent de SAD. Alors pourquoi lui est-il symptomatique? Pourquoi était-il plus intéressant qu'un autre?
Alors peut-être d'abord il y a le fait que ce livre est écrit au XXIe siècle, c'est-à-dire que il est écrit alors que le XXe siècle vient de se clore, et j'avais en fait envie d'écrire sur le XXe siècle aussi. Donc il y a dans cette question-là, c'est pas le thème du XXe siècle ne vient pas comme ça de manière seulement liée à ça. Il vient de ma propre position, et je crois d'une position générale d'intellectuels, des penseurs, sur ce qui vient de se passer sur le siècle qui s'achève.
Donc vous nous parlez du XXe siècle.
Voilà, c'était quand même ça aussi. Et mais bon, ce qui évidemment le SAD ici comme emblème du XXe siècle, c'est un XXe siècle évidemment choisi. Je prétends pas évidemment.
C'est le court XXe siècle.
C'est un court XXe siècle qui en fait est limité à la seconde moitié du XXe siècle, même si ce qui précède est forcément inclus et imprègne ce second XXe siècle, qui est mon XXe siècle. Je ne prétends pas non plus dire tout le XXe siècle, évidemment, au travers de SAD, mais il me semble que SAD dit quelque chose d'essentiel de notre XXe siècle, en tout cas du mien, de celui auquel j'ai participé.
Donc la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 80.
Voilà, et qui est un peu ambivalent, parce qu'il est écouté d'abord de la violence, en effet, d'un XXe siècle de la violence, de la destruction, mais je dirais aussi, surtout, d'un XXe siècle de l'intelligence et de la liberté.
Qu'est-ce que vous voulez dire par intelligence?
C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui m'a vraiment fasciné en faisant ce livre et en lisant alors depuis Bataille jusqu'à, disons, Pasolini, c'est l'incroyable effervescence de pensée que ça te provoque. C'est-à-dire, ils prennent ça au sérieux, ça veut dire pour eux, il y a une sorte de pari de la pensée, d'un oser penser, d'une sorte d'affranchissement par rapport à beaucoup, beaucoup de limites, qui sont pas seulement celles du puritanisme ou de la pudibonderie, mais qui sont celles d'une sorte de limite de la pensée. Faut pas oublier que le XXe siècle est un siècle aussi du marxisme. Et Sade, et à mon avis, pour moi, aussi le moyen de s'extraire de ce qui est, au fond, le décor profond de tous ces penseurs-là. Qu'ils soient marxistes, comme l'a pu l'être Foucault quelques années, qu'ils ne le soient pas, comme Lacan ne l'est pas, par exemple. Néanmoins, ils sont tous entièrement déterminés par ce qui est leur horizon idéologique le plus profond.
Ça leur donne de l'air, d'une certaine façon.
Ça donne de l'air, et ça leur permet de repousser les limites de ce qui est leur, entre guillemets, prison, en tout cas leur cadre idéologique.
Oui. Puis ça sort du social aussi, du questionnement sur les classes sociales.
Voilà. Et puis ça les sort d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, ce que ça permet, c'est aussi de penser le statut d'intellectuel au XXe siècle. Le XXe siècle, moi je pense par exemple à quelqu'un qui n'est pas du tout sadien, comme Althusser, pour qui au fond, évidemment, être intellectuel, ça veut dire prendre la position de la classe ouvrière, sortir de soi comme petit bourgeois et s'assumer comme intellectuel, comme penseur, comme développer la pensée dans son intensité la plus extrême, mais au travers de l'autre, au travers de la classe sociale qui devient en quelque sorte le vecteur de cette liberté et du fait que l'intellectuel peut s'assumer comme intellectuel sans être un individu isolé dans sa particularité la plus limitée. Voilà, ça c'est un destin. Mais au fond, ce destin, c'est quoi? C'est être membre du Parti communiste, c'est lire l'Humanité tous les jours, c'est au fond abandonner son rapport au désir et au plaisir. Et c'est en ça que vous avez raison. C'est que ça te permet justement d'inclure un autre enjeu dans, je dirais, l'élaboration par l'intellectuel de sa propre position, qui est précisément de faire du désir et la jouissance un des enjeux, finalement, par où l'intellectuel se construit lui-même comme intellectuel. Et ça, pour ça, est un personnage qui est très important parce que, sans être évidemment un modèle, en tout cas, il autorise l'intellectuel à se penser comme tel via, justement, la question du désir.
Donc, on a évoqué tout à l'heure Apollinaire avec le premier extrait. On va pas tellement s'attarder sur cette figure-là parce que vous-même, vous avez choisi de ne pas le faire dans votre livre. On va commencer comme vous. En 1947, c'est une année fondatrice pour la relecture de Sade au XXe siècle. Pour quelle raison, Éric Martin?
Alors, c'est juste l'après-guerre. C'est absolument l'après-guerre et c'est... Et ce qui est fascinant là aussi, c'est que c'est très très vite, Sade sort. Sade sort, vraiment. Il est sorti déjà un petit peu avant avec Adorno et Horkheimer qui sont dont le livre La dialectique de la raison paraît en 47.
Où ces deux auteurs, philosophes allemands, considèrent que Sade préfigure le fascisme qu'ils ont connu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. Et cela à partir, je dirais, de l'expérience concrète et réelle de ce qu'a été le fascisme, le nazisme, si on peut dire, puisque Adorno, qui donc a été expulsé, a quitté l'Allemagne après la prise de pouvoir par Hitler, a vu réellement ce qu'était le fascisme dans sa configuration organique, physique, esthétique, par les meetings, par les défilés, par rapport au corps aussi.
Et il y a trouvé du sadisme.
Alors ce qui est fascinant, c'est qu'il hallucine en quelque sorte dans le trauma. Vraiment un trauma qui a été pour Adorno ce spectacle d'une Allemagne nazifiée. Il y hallucine les portraits, les descriptions des orgies sadiennes, du rapport sadien au corps, d'une forme d'anonymat du désir, de la jouissance, de l'exultation. Il ne faut pas oublier quand même que Adorno dit le nazisme a été la passion fondamentale. C'est-à-dire qu'il a vu pas seulement l'horreur nazie, il a vu aussi ce qu'il y avait de libidinal, de profondément d'énergie dans le nazisme, cette énergie du désir. Et ce qui est, quand il, donc, expulsé d'Allemagne, il va aux États-Unis pour tenter de refonder l'école de Francfort et tout son travail. Il a déjà commencé à le lire, mais il va lire beaucoup Sade. Et il va lire ça dans un double mouvement, à la fois du trauma récent de ce qu'est le nazisme, et puis la découverte du capitalisme moderne, américain.
Ah, parce qu'on peut aussi assimiler ça avec le capitalisme libéral américain.
Le néolibéralisme, c'est ça qui est assez troublant dans le double mouvement de la lecture sadienne de
Adorno. Mais l'esthétique n'est pas la même quand même.
L'esthétique n'est pas la même, mais la disparition du sens de l'individu, la mobilisation, si on peut dire, le lien qu'il y a entre désir et collectivité et industrialisation des désirs est assez proche, au fond. Et ce qui est très étrange, c'est que Adorno pourra tout à fait comparer à la fois Auschwitz, si on peut dire, en tout cas, ses préfigurations avec Sade, que l'industrie culturelle américaine et que, au fond, les processus de collectivisation qui sont ceux du néolibéralisme.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de sadien, par exemple, dans un film comme Le Loup de Wall Street, où on est dans l'orgie, où on est dans l'argent.
Tout à fait. Tout à fait. Et dans la spéculation, on veut dire le maître de la spéculation.
Et dans le plaisir sans limite.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et de la fausse monnaie, au fond, qui est la fausse monnaie sadienne, où la jouissance naît à partir du rien, naît à partir justement d'elle-même, à partir de l'impératif de jouissance, qui est un impératif de jouissance qui est aussi, selon Adorno, l'un des impératifs justement de la société industrialo-culturelle des États-Unis des années qu'il découvre donc en Californie, qu'il découvre en Amérique à ce moment-là.
Alors on va continuer de tirer le fil de l'assimilation entre Sade et le fascisme, mais il faut quand même, pour replacer un petit peu le panorama général du XXe siècle, dire qu'il va y avoir d'autres interprétations que celle-là. La seconde grande interprétation, c'est celle des années 60. C'est une interprétation dominée par les analyses de Foucault, c'est aussi Lacan et Deleuze. Comment caractériser alors là, à ce moment-là, l'autre pensée sur ça?
Alors justement, pour la caractériser, je ferai une petite nuance à ce que j'ai dit sur Adorno. C'est-à-dire qu'Adorno, en effet, assimile Sade à un phénomène de domination de la violence, mais en même temps, il voit dans Sade un message positif, au sens où le tragique, au fond, du discours sadien est ce qui sauve, en fait, l'homme. Puisque pour Adorno, au fond, tous les discours de l'humanisme de gauche sont des discours qui visent à camoufler le réel de la domination, et que justement Sade, en découvrant, en dévoilant le réel même de la domination, est celui qui sauve l'homme.
Bah, c'est toute la question de savoir où l'auteur Sade se situe par rapport à ce qu'il décrit et par rapport à ses personnages. Est-il avec eux ou est-il contre eux?
Alors justement, c'est là où on prend vraiment Sade au sérieux, c'est-à-dire qu'on s'intéresse pas justement à la personne de Sade, on s'intéresse au texte de Sade. Et depuis Adorno, c'est comme ça jusqu'à la fin, y compris même avec Pasolini.
Peu importe ce qu'il a fait lui-même de Sade.
Exactement. Et d'ailleurs, personnellement, la biographie de Sade est passionnante. Maintenant, les discussions autour de Sade, autour de savoir si Sade était ceci ou cela, me paraissent toujours un peu faibles par rapport au texte même de Sade, qui est justement d'une totale logique et d'une grande puissance. Et donc, c'est en ça que ce qui va se passer, ce que vous indiquiez sur les années 60 est intéressant, c'est que dès Adorno, qui est pourtant une lecture très traumatique de Sade, il pointe qu'il y a dans cette violence de Sade quelque chose d'inespéré d'espérance dans les discours sadiens, précisément parce qu'il ne ment pas. Parce que Sade ne ment pas, et ça, dans ce sens, nous délivre de toutes les fausses illusions que l'humanisme peut produire sur l'homme et sur l'arrêté des relations interhumaines.
Donc ça, c'est le deuxième moment, et il y a encore une troisième période qui va être agrégée autour du groupe de Tel Quel, Solers, Klossowski, Barthes, dont vous êtes un spécialiste, et là, ça n'est plus avec crainte et tremblement qu'on parle de Sade, on le considère comme un auteur qui peut aussi avoir, par exemple, de l'humour.
Tout à fait. Alors, ce qui est frappant, c'est que les grands lecteurs de Sade du XXe siècle, donc Klossowski, Bataille, Adorno, Blanchot, lisent Sade avec une sorte de fascination angoissée et une sorte de crispation assez fascinante. Alors que, en effet, je crois que quelque chose du XXe siècle se dit aussi dans la transformation du rapport à Sade, avec un rapport beaucoup plus, beaucoup moins crispé que celui-là. Et en effet, Lacan perçoit justement dans ce qu'il y a d'ambivalent dans le sérieux sadien, ce qui doit justement nous amener à avoir un rapport beaucoup moins angoissé par rapport à son texte.
Alors, représentant de cette troisième période, Philippe Solers, qu'on écoute à présent en archive.
Le cas de Sade est exemplaire parce que justement, étant donné qu'il a mis l'accent sur un référent, en principe insupportable, qui est justement l'obscénité, le crime, le meurtre, et en tout cas la transgression sous toutes ses formes, ce référent a pris toute la place de son texte. Et si on change simplement le système de lecture, c'est-à-dire si on ne fait pas porter l'accent sur le référent, mais sur simplement le système sadien, on s'aperçoit qu'on peut très bien lire cela de sang-froid, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans toute sa dimension, c'est-à-dire les textes les uns par rapport aux autres et l'ensemble des livres eux-mêmes. On a toujours parlé de Sade selon une méthode qui consistait à lui prêter une pensée insupportable qui servait en général à faire condamner des pervers. Le nom de Sade est souvent cité dans les tribunaux, il l'est constamment dans les journaux. On ne s'est jamais rendu compte qu'il y avait un texte écrit, c'est-à-dire qu'on a construit une fiction qu'on appelle sadisme, sans jamais se rendre compte que cette fiction était faite à partir d'un texte. Il est tout de même extrêmement remarquable que deux des concepts essentiels qui fonctionnent dans les sciences humaines, comme celui de sadisme ou celui de masochisme, sont empruntés tous les deux à des œuvres littéraires, c'est-à-dire à celle de Sade et à celle de sa chère Masoch, l'une au XVIIIe, l'autre au XIXe siècle. Le fait qu'on ait pu construire, par exemple, l'entité sadomasochisme, ça Deleuze le montre par exemple dans son livre sur Masoch, est une monstruosité, parce qu'on prend deux textes absolument inconciliables, l'un écrit au XVIIIe, l'autre au XIXe, ce qui prouve qu'on ne fait aucune analyse historique de la production de ces textes au moment où ils se produisent. On prend ces deux textes et on en tire une entité métaphysique qu'on appelle le sadisme, le masochisme ou le sadomasochisme. C'est donc dire, si vous voulez, que cette absence de lecture fondamentale du texte de Sade produit des effets terrifiants dans la pratique sociale quotidienne.
Thank you.
compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'est-ce que vous retenez de ce que disait en archive Philippe Solers, Éric Marty ?
Alors en fait, il me semble qu'ici, Solers vise quelqu'un directement dans... c'est Lacan. C'est Lacan qui par exemple, lui défend l'idée d'un sadomasochisme. Il défend l'idée qu'au fond, Sade... Il donne comme preuve de cela tous les malheurs de Sade. C'est-à-dire le fait que Sade était tellement en prison montre bien qu'il y a derrière son sadisme, entre guillemets, un masochisme réel, puisqu'il s'est puni lui-même en acceptant et en finalement en se soumettant assez facilement à la punition.
Oh, pas tant que ça, je crois qu'il aurait bien voulu sortir quand même.
Oui, oui, enfin, moi je défends pas du tout je tente d'expliquer ce qui vise Solers. C'est donc Lacan qui voit, en fait, dans la personne de Sade lui-même, quelqu'un qui n'est pas à l'abri d'un masochisme, dont la preuve serait sa facilité à, et en fond, le fait qu'il ait passé tellement de temps à être puni. Et dans son rapport avec sa belle-mère, qui est la principale accusatrice et la principale responsable de ses malheurs, il y a quelque chose qu'on pourrait trouver d'ambivalent. Hein. Je n'ai pas ma position, mais c'est en tout cas ce que Lacan dit. Et puis surtout, il dit qu'au fond, la jouissance sadique elle-même est masochiste, au sens où ce que le sadique est au fond au service d'un autre que lui-même. Il est au service de la jouissance phallique, et qui n'est pas forcément sa propre jouissance. Et en ce sens, la jouissance du sujet sadique n'est pas si évidente que ça, n'est pas si simple que ça. Elle est elle est perturbée elle-même par sa dévotion à une sorte de dieu obscur qui est le phallus. Et le sadique n'est pas au final un vrai jouisseur. Donc il y a un masochisme. Donc voilà, il me semble que c'est ça que Solers s'attaquait.
Enfin, toujours est-il que à la fois Solers comme Lacan prennent donc très au sérieux Sade, puisqu'ils en tirent des théories, des
Tout
conséquences, alors que l'arrivée dans le champ de Pasolini et de son film « Salo, les 120 jours de Sodome va d'une certaine manière poser comme une ombre sur cette pensée-là, parce que c'est un film qui va choquer énormément. On en écoute un tout petit extrait.
« Faible créature enchaînée, destinée à notre plaisir, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes déjà mort. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie. »
Alors ce film, c'est 1975. Il fait grand bruit, il vient percuter peut-être un petit peu toute cette pensée autour de Sade et revenir pour enfoncer le clou d'un Sade, cette fois réellement fasciste.
Oui, alors... En fait, tous les auteurs dont je parle ont travaillé beaucoup, sauf peut-être Lacan, mais ont travaillé beaucoup à distinguer Sade de toute référence au fascisme. Même opération d'ailleurs pour Nietzsche, hein, c'est la même chose. Il s'agit de sauver deux figures, d'écarter toute imprégnation, toute confusion avec le nazisme. Et évidemment, là.
Pourquoi veut-on sauver Sade à ce point-là ?
Pour justement en faire un modèle d'émancipateur. Et c'est assez Klosowski et Bataille qui commencent, et Blanchot qui vont commencer à mettre ça en place. Il s'agit justement de sauver ça de toute confusion, de toute ambiguïté nazie. Et Bataille surtout sera le premier à le faire et le plus militant pour ça, avec une théorie tout à fait intéressante en disant, au fond, le bourreau ne dit jamais la violence qu'il commet. Le bourreau est toujours dans l'alibi par lequel il va justifier sa violence en tenant un discours du bien.
Donc si on parle de violence, ça veut dire qu'on ne peut pas être un bourreau.
Voilà. Du coup, Sade, en disant la violence, ne peut pas être du côté du bourreau. Il ne peut être que du côté de la victime, en fait. Paradoxe très typique de la pensée moderne. Série d'enversements logiques qui vise à créer une sorte d'effroi de la pensée. Et en effet... Pour Bataille, ça est donc du côté du bourreau, de la victime. Voilà. Donc, il y a vraiment un travail très intense, très prémédité, très sophistiqué pour écarter toute confusion entre Sade et le nazisme. Cette confusion qui avait été faite dès après la Seconde Guerre mondiale, en voyant dans Auschwitz, dans les fameux abat-jours faits de la peau tatouée des victimes, en voyant là-dedans tout ça, eh bien, le spectacle même du sadisme. Oui. Eh bien non, il faut absolument garder ça. Et, bizarrement, 75, en effet, retour complet d'une sorte de fusion, de confusion de l'imagerie sadienne et de l'imagerie nazie, parce que c'est ce que fait absolument Pasolini. Les orgies, les scènes de torture sont des scènes tirées des 120 jours de Sodome, mais elles sont faites par des maîtres qui sont en uniforme SS.
Et c'est explicite d'ailleurs, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la République de Salo.
Donc, là, quelque chose qui désempare beaucoup. Et on aura trois réactions au film. Il y aura celle de Barthes, de Foucault et de Deleuze de manière moins publique, mais dans Image Mouvement, il critique tout de même le Salo de Pasolini en valorisant Théorème contre Salo. Hein. Ouais. Mais il y aura des réactions non négatives. Aussi bien Foucault et Barthes vont en tout cas de manière publique critiquer le Salo. Il ne faut absolument pas qu'il y ait cette confusion-là.